Quand le patron te raconte que t'es adroit et gentil, sois sûr que t'es le nigaud qui fait marcher son bateau. Attends-moi, petit gosse.
Bienvenue à la complainte du travail.
Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou. L'argent est au bas de l'échelle et le talent part en haut. C'est pourquoi personne en haut, pourtant la vue est plus belle. Attends-moi, petit gosse, tu vas tomber si je suis pas là. Le plaisir de l'un, c'est de voir l'autre se casser le cou.
Bonjour et bienvenue à la complainte au travail. Aujourd'hui, nous sommes le 13 octobre. L'émission va être animée par moi-même, Roxane Deniger, et Sandy Tremblay.
Bonjour!
Aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est un gros thème. C'est l'itinérance et la pauvreté. On a choisi ce thème dans le cadre de la Nuit des sans-abri qui va se dérouler cette semaine. C'est vendredi le 16 octobre. Le lendemain, on a également une grosse journée. C'est la Journée mondiale du refus de la misère qui se déroule le 17 octobre.
Et en plus, Roxane, cette année, c'est la 20e édition de la Nuit des sans-abri. Alors, ce n'est pas la 20e année qu'on souligne cet événement-là à Sherbrooke, mais ça fait quand même 20 ans qu'au Québec, à Montréal, à Québec et dans l'ensemble des villes depuis plusieurs années, il y a des activités pour sensibiliser les gens à la réalité des gens qui vivent une problématique en itinérance. Alors, le constat qu'on peut faire, c'est que malgré l'adoption de la loi 112 en 2002, les conditions de vie sont restées très précaires. La pauvreté et l'exclusion sociale ont continué de gagner constamment du terrain.
Juste, tu peux m'éclairer, s'il te plaît, qu'est-ce que la loi 112?
La loi 112, c'est une loi qui a été adoptée. Et le titre exact de cette loi-là, c'est la loi visant à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et cette loi-là, pour la première fois dans l'histoire du gouvernement québécois, c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité par l'ensemble des partis qui étaient en 2002 représentés à l'Assemblée nationale. Et malheureusement, il n'y a pas eu de geste politique très concret par rapport à ça. Tu as beau adopter une loi anti-pauvreté, bien, il faut demander que tu hausses ton salaire minimum, que tu indexes les gens à l'aide sociale, ce qui n'a pas été fait ou fait vraiment pas à la hauteur de ce qui aurait pu améliorer les conditions de vie des gens, là, des citoyens et des citoyennes. Alors, ce qu'on a constaté, c'est que depuis ce temps-là, il y a eu une hausse du salaire minimum, mais pas suffisamment pour sortir les gens de la pauvreté. On en parle régulièrement dans notre émission. Il y a eu des coupures à l'aide sociale, notamment là, dans les années qui ont suivi. Il y a eu une coupure de 100 $ qui a été appliquée aux gens qui étaient en colocation. Si vous étiez à l'aide sociale, maintenant la loi sur le revenu de dernier recours, là. Il y a eu des hausses de tarifs également. On sait très bien que les hausses de tarifs, contrairement aux hausses d'impôts, s'appliquent à l'ensemble des citoyens et des citoyennes, que vous soyez pauvres ou aisés. Et je te pose la question, Roxane, qui habite dans des logements qui coûtent très cher en énergie?
Sûrement les très pauvres.
Les très pauvres, parce que quand on a les moyens, on a des bonnes fenêtres pour s'isoler. On peut un logement qui a une qualité d'isolation beaucoup plus supérieure. Donc, le coût du chauffage est moins cher. Alors, quand on constate toutes les hausses du gouvernement, pas du gouvernement, mais d'Hydro-Québec qu'il y a eu ces dernières années, c'est les pauvres qui ont été les plus touchés par ces hausses-là. Et les hausses de tarifs, là, c'est partout. Là. C'est le prix du permis de conduire, le prix de la carte d'assurance maladie, le prix de la carte de la Société des transports, etc. Dans l'ensemble des villes, tous les tarifs ont augmenté. Et en plus de ça, depuis 2002, il n'y a pas eu... Oui, il y a eu des investissements dans les logements sociaux, mais principalement dans les coopératives d'habitation. Et les coopératives d'habitation, ce n'est pas inintéressant, c'est même très intéressant comme initiative, mais ça ne répond pas à tous les besoins au niveau du logement. Il y a certaines personnes qui ont besoin d'avoir du logement supervisé, soit parce qu'ils ont une problématique en santé mentale ou un trouble en santé mentale, soit parce qu'ils sont à risque d'itinérance, parce que pour une raison ou pour une autre dans leur vie, ils ont besoin d'un peu de supervision. Et il y a aussi les HLM qui, eux, dans les HLM, les habitations à loyer modique, on s'assure que la personne va payer maximum 25 % de ses revenus pour se loger. Ce qui devrait être la norme. En passant, si vous voulez voir si votre revenu est équilibré, vos dépenses sont équilibrées, vérifiez le pourcentage de revenus que vous allouez à votre loyer. Si vous dépassez 30 % une fois que les services sont inclus, donc le chauffage, l'électricité, l'eau chaude, ça veut dire qu'il va faire à parier qu'il y a une partie de votre budget que vous allez devoir réévaluer. Parce que ce qu'on constate, c'est qu'en haut de 30 % les gens, là, c'est la portion qu'on devrait allouer au logement, au-delà de ça. Et selon toi, Roxane, où les gens coupent quand il y a quelque chose à couper dans un budget?
dans leurs loisirs, aussi dans la nourriture. Je crois que les parents, ils vont souvent se priver de nourriture pour essayer d'en donner un petit peu aux enfants. Donc, dans les besoins de base.
Effectivement.
Quand ton loyer coûte 80 % de ton revenu, il ne te reste plus grand-chose pour souvenir à tes besoins.
Et ça, là, ça paraît immense. On se dit, mais qui peut payer 80 % de ses revenus pour se loger? Mais si vous êtes à l'aide sociale, que vous avez deux enfants, vous êtes un couple de deux personnes, vous avez, mettons, un 4,5, puis qui vous coûte 600 $ bien, 600 $ si vous avez un revenu de 1 000 $ par mois, bien, c'est 60 % de votre revenu qui vient de passer. Si vous avez un 5,5 parce que vous avez trois enfants, ça peut monter facilement jusqu'à 80 % Et c'est vraiment pas rare que les gens vont allouer un montant aussi élevé que ça pour se loyer, pour se loger, pardon.
C'est ça. Et dans le fond, je me rappelle, la semaine dernière, le 5 octobre, c'était la journée de l'habitat. Mm-hmm. L'association des locataires a fait une action. Et dans le fond, il y a un journaliste qui nous a demandé comment ça, est-ce que vous chialez qu'il n'y a pas de logements sociaux, puisqu'on se promène dans la ville de Sherbrooke et on voit des pancartes partout à louer. En fait, ce qui se passe, c'est que les gens très riches, il y a des beaux condos qui se construisent. On en voit sur la rue King, si vous voulez continuer juste tout de suite après le pont. Vous allez voir, ces condos-là, ils ne seront pas accessibles à l'ensemble de la population. On construit des hôtels. Mais alors là, les gens qui sont riches vont aller dans les nouvelles bâtisses. Et les gens qui sont pauvres n'ont pas les moyens de louer les logements qui sont actuellement...
Et dans les logements, tout à l'heure, on en a parlé aussi, dans les logements qui sont abordables pour les gens à faible revenu, bien souvent, ils sont soit insalubres, soit qu'ils vont coûter très cher en énergie. Donc, la personne n'a pas plus les moyens de se loger dans ce genre d'appartement-là et personne ne devrait vivre dans un logement insalubre, évidemment. Et pour les personnes qui sont à risque d'itinérance, là, vous savez qu'il y a plein de facteurs, on va y revenir tout à l'heure, qui peuvent mener à une problématique d'itinérance, mais le constat à Sherbrooke, c'est qu'à chaque soir, parce que la pauvreté à Sherbrooke, elle n'est pas aussi visible qu'à Montréal, hein. Si on s'en va à Montréal, on voit des gens qui caillent dans la rue constamment, on voit des gens qui se sont fait des abris avec un carton. Ça se voit plus régulièrement. À Sherbrooke, c'est un peu plus insidieux. Mais si on fait juste regarder comme il faut, on s'aperçoit rapidement qu'il y a plus de 250 lits chaque soir qui sont réservés pour des gens qui sont itinérants ou itinérantes ou qui sont à risque de. On peut penser notamment à l'accueil Poirier. L'accueil Poirier, c'est 25 lits pour des hommes et des femmes et c'est la seule ressource pour des femmes là, de dernier recours. Et il y a certains lits à l'accueil Poirier qui sont réservés à des gens qui sont intoxiqués. Parce qu'à l'ensemble des autres places, si vous arrivez, vous avez consommé de l'alcool, vous avez bu, on ne vous accueillera pas. Alors là, si vous arrivez à l'accueil Poirier, la seule condition, c'est que vous ne soyez pas agressif. S'il y a une problématique d'agressivité, on ne vous ouvrira pas la porte, mais au-delà de ça, on va vous accueillir tout de même. On peut penser aussi à la Maison Saint-Georges. La Maison Saint-Georges qui accueille 25 personnes en interne et qui supervise 100 personnes à l'externe qui ont un trouble ou une problématique de santé mentale. On peut penser à la Source Soleil qui accompagne des jeunes de 18 à 35 ans, 30 ou 35, je ne me souviens pas, qui ont un projet de vie puis qui veulent récupérer un petit peu de pouvoir sur leur vie. Le Partage Saint-François, qui a une quarantaine de lits, si je ne m'amuse, et le Tremplin, qui supervise des jeunes là, de 18 à 30 ans également, là, qui ont 23 appartements et un plateau de travail aussi pour ces jeunes-là.
Je pense qu'il ne faudrait pas oublier non plus la Chaudronnée, parce que même si ça ne pas seulement des itinérants, il y a beaucoup de gens qui vont aller se nourrir pour être justement être en mesure de payer leur logement.
Leur logement ou même, ne serait-ce, vous savez, il y a plusieurs raisons d'aller à la Chaudronnée. Hein. Ça peut être pour sortir un petit peu de l'isolement, d'aller rencontrer des gens, des intervenants. Ça peut être pour justement s'assurer d'avoir au moins un ou deux repas par jour qui sont convenables, hein, qu'on a les moyens de s'offrir. Rappelons-nous que c'est 2 $ par repas. Vous pouvez avoir 2 repas par jour. Et pour 20 $ vous pouvez avoir tous les repas qui sont offerts à la Chaudronnée là, dans le mois. Alors, c'est quand même une option pour les gens qui est... très utilisé parce qu'ils servent plusieurs milliers de repas par année.
Oui. Ça, c'est un peu décourageant. Dans le fond, la pauvreté, ça fait des années que ça dure. En fait, je crois que c'est là depuis presque toujours, si je ne m'abuse. Est-ce qu'il y a de vraies solutions?
En fait, oui, il semblerait qu'il y en ait. Le réseau de solidarité itinérance du Québec propose une politique en itinérance. Une politique en itinérance, ça touche plusieurs droits qui sont inclus dans la Charte des droits et libertés, dont le droit de cité. Quand on parle de droit de cité, là, on peut-tu arrêter d'exclure les gens des endroits publics? On sait qu'à Montréal, dans plusieurs secteurs, les municipalités, là, les conseillers municipaux, ont fait voter des lois qui font en sorte que, passé une telle heure, les gens doivent être partis du parc, que les chiens ne sont pas amenés. On sait très bien que la plupart des gens qui sont itinérants se dotent d'un animal de compagnie parce que ça les brise un peu de l'isolement. Puis l'objectif, c'est vraiment le syndrome pas dans ma cour. Hein. C'est correct qu'il y ait des itinérants, là, on fait avec, mais on ne veut pas les voir chez nous, puis on ne veut pas trouver des seringues, puis ça, on ne veut pas voir cette réalité-là, on ne la veut pas proche de chez nous. Alors, le droit de citer est inclus dans la politique en itinérance qui est revendiquée par le réseau Solidarité Itinérance du Québec. Le droit au logement, donc est-ce que les villes pourraient se doter d'un code du logement pour faire en sorte qu'il y ait des pénalités importantes qui soient données aux propriétaires fautifs? Le fait aussi de faire en sorte, si un terrain vacant, est-ce qu'on peut le récupérer et en faire un espace pour mettre du logement social, que ce soit des coopératives d'habitation, des HLM ou autres logements sociaux, mais au moins qu'on l'investisse? Et on peut penser aujourd'hui, faire pression, pardon, sur les gouvernements pour qu'il y ait un investissement massif dans la question du logement social. Il y a le droit à un revenu décent. Donc, augmentons le salaire minimum, augmentons les prestations de dernier recours, arrêtons les coupures à l'aide sociale lorsque les gens tentent d'améliorer leur sort, que ce soit en allant chercher un colocataire ou autre manière. Si vous savez que si vous avez quelqu'un dans votre famille qui vous donne un montant d'argent à l'aide sociale puis qui s'est déposé dans votre compte, il y a fort à parier que si votre agent s'en rend compte, il vous coupe du même montant sur votre prestation. Vous n'avez pas le droit d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et il y a aussi le droit à la santé et le droit à l'éducation qui est inclus dans la politique en itinérance qui est revendiquée. Alors ça, c'est des solutions qui pourraient être mises de l'avant pour améliorer le sort là, des gens qui sont en itinérance ou à risque de. Il va falloir faire une pause. Alors, on va aller en musique avec Jacques Dutronc. La chanson s'intitule « Il est 5 heures, Paris s'éveille ». Alors, on se laisse en ce moment et on revient après la pause.
Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris. S'éveille, Paris, s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseuses sont habillés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris. Café nettoie leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris. Les boulangers font des bâtards. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds, l'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille, Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Mmh. 95,5 FM. La radio communautaire de l'Estrie.
Nous sommes de retour de la pause. Juste faire un petit rappel, ce qu'on parlait juste avant, ça a été beaucoup de la pauvreté. Si on se rappelle, il y avait aussi deux thèmes à l'émission, l'itinérance et la pauvreté. Donc, est-ce que la pauvreté mène automatiquement à l'itinérance?
Non, la pauvreté ne mène pas automatiquement à l'itinérance, mais il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à faire en sorte qu'une personne vive une période d'itinérance. Parce que quand on vit une période d'itinérance, ça ne veut pas dire qu'on est un itinérant. Tu ne fais pas ça toute ta vie nécessairement. Là. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent t'amener à vivre cette situation-là. Il y en a que c'est pour plus ou moins longtemps. Ça dépend vraiment de la personne. Dans les facteurs qui peuvent mener à une période d'itinérance, on peut parler de la perte d'un emploi, la perte d'un loyer, une rupture. Hein? Notre conjoint ou notre conjointe nous met dehors. Ça ne veut pas dire qu'on a un réseau social pour essayer de nous accueillir. Des abus sexuels. Une personne qui a vécu beaucoup d'abus sexuels a plus de chances qu'une autre personne, évidemment, quand on regarde les statistiques. L'isolement, c'est vraiment la qualité du réseau social. Les problèmes de toxicomanie, que ce soit il y a le jeu aussi, les problèmes de santé mentale ou les troubles de santé mentale, là, comprenez bien la différence, il y en a un qui est plus permanent que l'autre. Et ce que les études démontrent, puisque les intervenants qui travaillent auprès de ces gens-là aussi vivent depuis plusieurs années, c'est que souvent les gens qui ont une problématique d'itinérance vivent avec plusieurs problématiques. C'est pas juste d'avoir perdu un emploi, mais souvent, c'est avoir perdu un emploi, puis de s'être fait mettre à la porte aussi par son conjoint, d'avoir vécu des... C'est la multitude de toutes ces problématiques-là qui fait en sorte qu'une personne va vivre pour une période plus ou moins longue de sa vie de l'itinérance. Et c'est les capacités pour la personne de s'en sortir là, vont dépendre aussi de sa capacité à aller chercher de l'aide extérieure, que ce soit auprès des intervenants, de se bâtir un réseau social ou autre.
Puis en fait, dans le fond, l'itinérance n'est pas uniquement un problème individuel. Comme on le rappelait tantôt, il y a des mesures sociales qui viendraient à mettre fin à l'itinérance.
Effectivement. Et on peut vraiment s'attendre à ce que si les prestations de dernier recours, donc à l'aide sociale, le montant augmentait, ça permettrait aux gens de mieux se loger, d'avoir moins de risques de vivre des problèmes d'itinérance, d'enlever beaucoup de stress. Hein. Si le salaire minimum augmente, ça fait moins de pauvreté pour les couples, moins de stress, moins de chicanes. Souvent, dans les statistiques, ce qu'on regarde, puis c'est ce qu'on parle aussi avec les gens qu'on rencontre en technique policière, les interventions qu'ils vont devoir faire, dans environ 80 % des cas, selon les études, démontrent que c'est dans des milieux où, socio-économiquement, les gens sont défavorisés. Là. Tous les stress financiers provoque, ça l'explique. Ça n'excuse pas les gestes qui peuvent être causés, mais ça l'explique parfois les excès de colère, les excès de rage, la violence conjugale, la violence envers les enfants. C'est un des facteurs qui contribue à.
De ce que tu viens de dire, j'entends que les travailleurs et les travailleuses n'échappent pas à l'itinérance.
Effectivement. Là, je vais vous parler du salaire minimum parce que c'est la base, c'est le minimum de conditions qu'un employeur doit offrir à ses employés. Mais même pour les gens qui sont au-delà du salaire minimum, ça ne veut pas dire que les gens qui travaillent ne sont pas pauvres. Au salaire minimum, on en parle souvent dans notre émission, même si une personne travaille 40 heures par semaine, elle va quand même gagner 3 000 en dessous du seuil de faible revenu. Donc, pour elle, ça sera pratiquement infaisable de penser pouvoir combler l'ensemble de ses besoins essentiels avec son revenu. Et le salaire minimum se retrouve, selon toi, dans quel secteur de travail?
La majorité des secteurs où est-ce que les travailleurs non syndiqués sont présents.
Effectivement. Vas-y.
Ouais, c'est-à-dire tout ce qui est les magasins que vous voyez au Carrefour, la restauration.
Effectivement. Le secteur du commerce et de la restauration, c'est principalement le secteur où on retrouve des gens au salaire minimum. Et c'est en plus d'être au salaire minimum, souvent des emplois qui sont précaires, à temps partiel, sur appel. Tu vas travailler beaucoup avant les fêtes, mais au mois de janvier, tu vas faire, si tu fais 15-20 heures par semaine, tu es chanceux. Je ne vous dis pas que tous les travailleurs dans ce secteur-là ne font pas du temps plein, mais c'est dans ce secteur-là qu'on retrouve le plus de gens qui font du temps partiel, qui n'ont pas aucun avantage social, donc des congés maladie payés, on oublie ça, des vacances bonifiées au-delà de ce que les normes du travail offrent, on oublie ça dans bien des cas. Et en plus, qui travaille dans ces domaines-là? Les hommes ou les femmes?
Majoritairement les femmes.
Majoritairement des femmes. 6 personnes au salaire minimum sur 10 sont des femmes. Alors, quand on parle là, de maintenir les gens dans la pauvreté, on maintient majoritairement des femmes dans la pauvreté au salaire minimum. Les études démontrent encore que les femmes gagnent le 2/3 du revenu des hommes. Hein. Pour les femmes, c'est une moyenne d'environ 20 000 $ puis pour les hommes, 30 000
$ Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est souvent la femme qui va avoir la garde des enfants. Donc, les femmes sont des chefs de famille et ont le plus faible revenu.
Effectivement, et c'est pas dans tous les cas que les femmes vont recevoir une pension alimentaire. Il faut aussi savoir que dans bien des lois, lorsque la femme reçoit une pension alimentaire, on va la considérer dans son revenu, donc on va la couper sur d'autres revenus, les allocations familiales, les prêts et bourses, on va la couper, on peut la couper aussi sur d'autres prestations à l'aide sociale, des choses comme ça auxquelles elle aurait pu avoir recours. Alors, on va la pénaliser en plus pour ça. Et c'est pas toutes les femmes qui reçoivent une pension alimentaire, on s'entend. Là, il faut avoir conscience de ça aussi, là.
Donc, tout ça est bien décourageant, mais est-ce qu'on peut faire quelque chose en tant que citoyen?
Oui, on peut. On peut premièrement être solidaire de l'ensemble des luttes qui sont menées autour de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Tu en as parlé, je ne me souviens pas si c'était dans notre émission d'aujourd'hui ou celle de la semaine passée, mais tu as parlé des consultations pour un plan de lutte à la pauvreté. Ça va faire presque 10 ans que la loi est en place et le gouvernement en est à remodeler un prochain plan d'action sur plusieurs années, là, un plan d'action, je pense qu'il est quinquennal, sur comment on va faire pour travailler fort pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, puisque dans les presque 5 ou 6 ans qui viennent de passer, on n'a pratiquement rien fait. Alors, le 7 décembre, il va y avoir une consultation à Sherbrooke. C'est une consultation là, qui fait le tour des régions, mais elle est en Estrie le 7 décembre. Et il y aura des actions de portée à ce niveau-là. Alors, c'est sûr que si un citoyen ou une citoyenne décide de s'unir, de se mobiliser et de venir dénoncer les effets de la lutte à la pauvreté, les effets de la pauvreté sur les gens qui sont en situation les plus précaires de notre société, là, la plus précaire, ça, c'est un geste très solidaire qu'on peut faire. On peut aussi participer à l'ensemble des activités. Il y a plusieurs moyens qu'on peut faire. On peut se faire soit de la dénonciation politique ou des actions plus concrètes. C'est sûr que d'aller aider son prochain, essayer de faire en sorte de faire du bénévolat dans des milieux où les gens sont victimes de pauvreté, il y a des gestes très concrets qu'on peut faire, là, comme donner nos vêtements qui sont encore bons au lieu de les jeter dans la poubelle. Ça en est un geste pour lutter contre la pauvreté. Fait qu'on peut travailler localement. Mais si on veut faire changer les choses, il faut travailler aussi sur les lois, sur la législation, parce que c'est par la législation qu'on va pouvoir contribuer à améliorer l'ensemble des conditions de vie des citoyens, des citoyennes du Québec. Ça, c'est sûr. On peut dire, mais moi, j'ai du pouvoir juste sur ce que moi, je fais dans la vie. Mais non, à un moment donné, il faut travailler sur les structures de notre société si on veut bonifier le sort de nos prochains, de nos enfants éventuellement et de tous les citoyens et citoyennes de la société. Et il faut aussi, une des choses qu'on peut retirer de participer aux différentes activités, on a nommé tout à l'heure la nuit des sans-abri puis le refus de la misère, on va y revenir tout à l'heure. Un des impacts que ces activités-là ont, c'est de briser les préjugés. Parce que ce qu'on réalise dans notre société, c'est que souvent les gens vont passer à côté d'une personne qui quête de l'argent, on va détourner les yeux au lieu d'assumer et de regarder cette personne-là, de lui dire bonjour, puis au pire, de lui dire, ben non, je m'excuse, j'ai pas d'argent à donner. Tu sais, ça, c'est pas, on ne juge pas la personne qui le fait pas du tout, là. Mais de prendre le temps de regarder cette personne-là et de la considérer comme étant une personne à part entière, de prendre le temps de revoir un peu nos préjugés, puis d'ouvrir nos œillères, ça, c'est un geste concret qu'on peut faire aussi. Alors, peut-être, Roxane, rappeler les coordonnées, si les gens veulent participer aux 2 activités dont on a parlé aujourd'hui.
Oui, donc la nuit des sans-abri au parc Camiran, coin Camiran-Barle, au centre-ville, à Sherbrooke, le 16 octobre, dès 18h. Ça se poursuit toute la nuit. D'ailleurs, on va jouer une scène de notre théâtre forum.
À 18h45, alors venez nous voir en grand nombre, on sera contents.
La deuxième journée, le lendemain, le 17 octobre, dès 16h, c'est la journée du refus de la misère à l'école Lebert. C'est le coin de la 13e et de la King.
Et il y aura des kiosques d'animation aux galeries 4 saisons dès 1h de l'après-midi. Plusieurs organismes qui travaillent à la lutte à la pauvreté vont être présents. Alors, si vous voulez aller voir un peu sur quoi ils travaillent en ce moment, venez les rencontrer. Et par la suite, il y aura une marche des galeries 4 saisons jusqu'à l'école Lebert. Et après ça, des présentations faites par des gens qui vivent une situation de pauvreté. Et si les gens ont plus de questions?
Ils nous contactent à Illusion Emploi. Nos bureaux sont au 187 rue Laurier, le bureau 214. Sinon, par téléphone, le 819-569-9993.
On vous remercie beaucoup de votre présence aujourd'hui devant votre poste de radio. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de La Complainte du Travail. Merci, Roxane.